soir vous fait découvrir une face autre de l'invité. À découvert vous révèle exactement ce que vous pensez savoir. À découvert, c'est tous les dimanches sur la station régionale CRTV du littoral.
Chers auditeurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la CRTV, station régionale du littoral. C'est à découvert qui démarre et pour cette édition, nous recevons M. Tchapa Chouaou, expert douanier et consultant. Avec lui, nous allons faire le tour de Batak Conseil, cette structure-là qu'il dirige, et vous saurez certainement tout ce que vous pensez savoir. M. Tchapa, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Découvert Sandra vous fait découvrir une face autre de l'invité.
Merci de nous accueillir, Monsieur Tchapa. Présentez-vous pour nos auditeurs.
Je suis inspecteur principal des douanes hors échelle à la retraite et actuellement je suis gérant de Batak Conseil et je suis consultant international pour le compte de l'Organisation mondiale des douanes, la CNUSED, l'Union européenne, la Banque mondiale, pour ne citer que celle-là.
Une expérience suffisamment riche que vous allez partager avec nos auditeurs. Dites-nous, d'où part le déclic? D'où vous vient cette envie-là de faire dans la douane camerounaise?
Disons que je suis douanier de formation. J'ai été formé à l'ENAM. Je suis sorti de l'ENAM en 78 et j'ai engagé une carrière de douanier. C'est le seul métier que j'ai appris à faire, quoi. Donc, je ne pouvais me reconvertir dans le cadre de ma retraite que dans la douane. Et à ce niveau, je dois dire que même j'ai interrompu ma carrière pratiquement 2 ans avant le terme officiel, quoi, pour me lancer dans la consultation internationale.
Pourquoi la douane, Monsieur Tchapa?
Je dirais que moi, je voulais faire les impôts. C'était ce qui m'avait mis en tête. Et malheureusement, quand je suis parti recueillir l'avis de mon père, qui était fonctionnaire retraité, il s'est totalement opposé à mon choix. Et c'était la première fois de ma vie qu'il s'opposait à quelque chose que je voulais faire et j'ai dû assumer, quoi. Puis il y avait une réelle complicité entre mon père et moi pour des discussions de cet ordre-là.
Batak Conseil, vous l'avez dit, parlons-en.
Notre rôle est d'assister les entreprises, de faire des études d'organisation, de structuration et même de faire de la formation. Batak Conseil en fait a 2 branches. Il y a une branche douane transit. Je m'occupe de cela avec 2 associés, des collègues qui sont retraités comme moi. Il y a M. Sigongwe, M. Kengafak, M. Mbinamo et tout récemment encore le commandant Kamto qui sont tous des douaniers qui ont passé une 30aine d'années en douane et qui ont accumulé une expérience qui permet qu'on puisse appuyer sur eux pour faire des réformes ou proposer des réformes ou bien pour encadrer les entreprises. Et l'autre volet, c'est le volet transport et logistique. Ce volet est assuré par mon associé principal, l'associé principal de la boîte, qui est docteur en économie de transport, qui est luxembourgeois et qui vit à Berlin. Actuellement, il est en mission de longue durée. Depuis 2 ans, il est en mission de longue durée en Côte d'Ivoire, où il dirige le projet de restructuration de transport auprès du gouvernement ivoirien, un projet financé par l'Union européenne.
Pourquoi Batak et non pas Tchapa Conseil?
Oui, vous avez raison de poser la question et vous êtes au moins la 2e personne à me poser cette question-là. Puisque mon associé lui-même avait dit quand on a mis en place la société en 2007-2008. Il m'avait demandé quel nom que je proposais. Je lui ai dit Batak. Et il a souri parce qu'il connaissait très bien Batak. Cet associé-là était mon premier patron dans le métier que je fais aujourd'hui. Nous avons travaillé près de 2 ans sur le corridor Douala-Ndjamena, Douala-Bangui, en suivant le corridor, par route. Et on avait un séjour à Bangui de 6 mois qui n'était pas de séjour suivi. Des séjours interrompus 2 semaines, 3 semaines. Et sûrement qu'il a vu ma façon de faire. Et quand je lui ai dit, quand il m'a demandé à la fin de la mission ce que je comptais faire par la suite, je lui ai dit que j'allais ouvrir une société de conseil. Et quand je lui ai dit ce que j'allais faire, il a été très intéressé. C'est comme ça qu'il s'est impliqué dans la chose. Et nous avons monté ensemble cette affaire. Et pendant donc qu'on faisait ce tour, j'ai eu à lui imposer un tour que j'impose à tous mes partenaires, c'est-à-dire une visite au village. Il y est arrivé en plein mois de juin, c'était la cérémonie de distribution de prix aux enfants de l'école, une école publique que nous avons créée et que nous avons donnée à l'État. Malheureusement, l'État ni à envoyer à présent jusque ce que le directeur, quoi. C'est nous qui. C'est notre association qui payons les enseignants, qui achetons les livres, qui faisons fonctionner l'école totalement. Et il a assisté à cette cérémonie-là et il a été interpellé pour remettre le prix à un enfant. Donc depuis ce jour-là, lui m'a institué un prix qui porte son nom pour les enfants de l'école. Et il a été souri quand je lui ai dit que je proposais que l'entreprise appelle Bata Conseil.
C'est donc Bata, c'est votre village?
Oui, Bata, c'est mon cher et beau village.
Qui est situé où?
Qui est situé à l'ouest du Cameroun, dans le département du Haut-Kam, dans l'arrondissement de Banja, dont je suis le conseiller municipal, et qui est dans le groupement Babouantou, totalement, pratiquement à l'est du groupement Babouantou.
Est-ce que vous pouvez nous présenter de façon précise cette entreprise?
Nous assistons les administrations qui en feraient la demande, les organisations également patronales, c'est-à-dire les professions qui ont à se frotter à la douane et qui ont besoin de formation ou de conseils dans les procédures qu'ils auraient engagées quand ils ont des problèmes ou bien quand leurs clients ont des problèmes avec l'administration des douanes. L'autre volet, c'est d'assister les entreprises camerounaises qui auraient des problèmes avec la douane, c'est-à-dire en termes de contentieux, ou d'assister les entreprises en termes d'organisation. Puis on a également un volet de formation qui est très important. C'est quand on va dans une entreprise et qu'on fait un audit de procédure, on peut se rendre compte que le dysfonctionnement qui a fait naître ou qui aurait fait naître un contentieux, pas d'un défaut de formation ou d'un défaut d'organisation de l'entreprise. Si c'est un point de formation, nous proposons à l'entreprise un plan de formation pour corriger le manquement qui a été constaté. Et également, nous avons une base documentaire très importante qui se trouve sur le site de l'entreprise www.bataconseil.com qui voudrait mettre à disposition de tous les utilisateurs, ça peut être des étudiants, des chercheurs, des entreprises, des douaniers eux-mêmes, tout le corpus juridique qui gère l'activité douanière au Cameroun. Nous avons dessus près de 2500 textes maintenant. C'est juste il y a un problème de réglage qui se pose, c'est comment mettre cette base à la disposition des utilisateurs et comment est-ce qu'ils paieraient un abonnement forfait, je ne sais pas quoi, par consultation. C'est ce dernier réglage-là qui manque à faire pour que le produit soit totalement sur le marché. On est parti d'une expérience parce qu'il y a en 2004, j'ai publié un livre partant de mon expérience personnelle sur la gestion d'un bureau ou d'un secteur de douane. C'est chose qu'on apprend dans aucune école. Et un matin, on vous dit que vous êtes chef de bureau, que vous êtes chef de secteur, et puis vous vous retrouvez avec un personnel à gérer. Vous n'avez jamais appris à gérer le personnel. Vous avez une unité, vous n'avez jamais appris à gérer. Je suis parti dans mon expérience personnelle. J'ai fait sortir un livre en 2004 qui s'appelait « Vademe comme du chef de bureau, le chef de secteur des douanes ». Et ça a été une expérience douloureuse en matière financière pour moi. Parce que je me suis investi dedans, j'ai dû être moi-même mon propre éditeur, j'ai payé l'édition et tout. L'autre livre qui doit avoir près de 2000 pages, j'ai un peu pu m'aventurer dans ce chemin-là. Et je suis convaincu d'ailleurs que c'est la solution électronique qui va gérer le problème. C'est-à-dire que qu'on met le livre sur un site internet et puis on voit par réglage comment est-ce que les gens peuvent le consulter pour les recherches qu'ils ont à faire ou bien pour les dossiers qu'ils ont à traiter.
Est-ce que vous pensez, Monsieur Tchapa, que le secteur douanier est suffisamment connu au Cameroun?
Disons, connu, c'est peu mitigé. Connu, oui, connu de ceux qui font les opérations de commerce et céréales uniquement. Et même pas tellement connu par ceux-là, parce que on se rend compte que dans beaucoup de procédures qui sont engagées par l'administration des douanes, beaucoup partent de la méconnaissance des textes par les opérateurs économiques. Pas tout le monde s'impose importateur, exportateur, et personne ne... Rares sont ceux qui prennent la précaution de s'entourer de toute la législation qui gère un domaine spécifique. Généralement, ces gens se réveillent quand c'est trop tard et c'est des pénalités, c'est des contentieux qui se soulèvent. Parce que la douane dit qu'elle est connue, elle n'est connue que par ceux qui la pratiquent, quoi, c'est-à-dire ceux qui font des importations, des exportations. J'ai le père d'un ami qui fait des importations, des exportations, mais qui ne veut rien pas entendre parler de la douane, c'est-à-dire que toutes ces opérations douanières, il les donne à des spécialistes, et puis il est tranquille, il n'a jamais mis les pieds en douane, il ne veut même pas y mettre les pieds. Il ne veut pas y mettre les pieds. J'ai le père d'un autre qui est décédé malheureusement de regretter mémoire, pour qui la douane était le diable avec des cornes. Parce que ce monsieur faisait dans le commerce du savon entre Cameroun anglophone et Cameroun francophone au moment de la réunification. Il faisait à contrebande quelques morceaux de savon, Quand il a enfin pu réunir de quoi acheter un carton de savon, il est tombé dans les filets de la douane qui ont arraché son carton de savon qui représentait une fortune. Et son activité commerciale s'est arrêtée comme cela, il est devenu planteur. Donc la douane dit que la douane est connue, elle n'est vraiment pas connue. Et le fait de cette méconnaissance nourrit toute une profession qui tourne autour de la douane et qui fait croire que la douane est une activité qu'on ne peut pas comprendre, qui la diabolise et qui fait que beaucoup de gens sont obligés de passer par des intermédiaires pour accéder à la douane.
À découvert vous révèle exactement ce que vous pensez savoir.
La douane n'a pas toujours bonne presse. Si les services de l'aconnage ou la manutention ne travaillent pas bien dans le port, c'est la douane. Puisque le port, on considère que le port c'est la douane, c'est le port. Alors qu'il y a une autorité portuaire qui gère le port. Et il y a toute une chaîne d'activités autour du port. C'est-à-dire pour que la marchandise arrive, il faut qu'il y ait un consignataire qui est en charge de la marchandise, que le bateau soit pris en charge par un consignataire, qu'il y ait eu un chargeur, qu'il y ait eu que la marchandise sorte, il faut que les aconniers qui reçoivent la marchandise, qui la localisent dans les aides de douanement. Il faut qu'il y ait des professions maritimes, que surtout le commissionnaire en douane fasse la déclaration pour que la douane reçoive la déclaration et la traite. Et quand elle a traité, la marchandise doit sortir du port par les aconniers, par le commissionnaire en douane et passant par les infrastructures que le port a mis en place. Donc tout ça, quand ça ne marche pas à tout moment, c'est la douane. C'est la douane. Et ça sert de dessert ou d'apéritif dans tous les cafés ou dans tous les buvettes de la ville. J'étais en douane, on m'a fait ci, on fait ceci. Même ceux qui ne regardent pas totalement l'activité douanière. Je sais qu'à ce niveau-là, il y a un véritable problème. C'est que les professions qui tournent autour de la douane, notamment celle de commissionnaire acquéreur en douane, qui s'est démultipliée avec ce qu'on appelle les valideurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas totalement professionnels, qui ont vu que c'est une ruche vers laquelle on doit courir, qui ont parfois des pratiques qui ne sont pas aux normes de la profession. Et le drame, c'est que ces gens sont couverts par des commissionnaires en douane régulièrement installés, puisque vous ne pouvez faire aucune opération en douane. Si vous n'êtes pas commissionnaire en douane, vous devez absolument passer par un commissionnaire en douane. C'est ce que dit la loi. La loi camerounaise, c'est-à-dire l'article 113 du code de douane, qui donnait la possibilité à tout le monde, a été modifié à deux reprises par une loi au Cameroun pour confiner cette fonction-là à des spécialistes, sauf dans les cas spécifiques des effets personnels ou de l'importation de véhicules. Et également laisser la possibilité aux administrations, aux ambassades et aux institutions internationales de déclarer pour elles-mêmes.
Nous sommes à découvert ce soir et nous sommes là pour vous découvrir, Monsieur Tchapa. Vous excellez dans plusieurs domaines, notamment l'expertise d'audit, téléformation, transport logistique, la douane et le transit. De façon claire, comment faites-vous pour gérer tous ces projets?
Disons que pour gérer tout cela, il faut savoir s'entourer d'une équipe parce qu'il y a les connaissances, il y a deuxièmement la transmission de connaissances. On a beau avoir les connaissances, si on ne sait pas les transmettre, si on ne sait pas les faire partager, il y a problème. Ça ne peut pas marcher. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes dans ce cabinet, nous avons une équipe. C'est-à-dire aucun document ne sort de ce cabinet s'il n'a pas l'aval de tout le monde. Et si vous visitez notre salle de travail là-bas, on n'a pas de bureau fermé. C'est-à-dire personne n'a ici un bureau qui lui appartient. On a une table hexagonale là, de l'autre côté, avec un écran devant. Tout ce qui sort d'ici, on s'assoit autour de la table, on discute, c'est projeté sur l'écran. Et puis on discute, on corrige les phrases, on bouge à virgule, on discute.
Quelles sont les forces et les faiblesses de Bata Conseil?
Les forces, c'est cette équipe dont j'ai parlé tantôt, qui est vraiment au travail et qui est rompue au NTIC. C'est-à-dire que partout, chaque l'obligation que nous avons à chaque moment, c'est de consulter nos emails. C'est-à-dire même de la maison, s'il y a un problème, on vous le transmet et vous devez réagir dans les heures qui suivent sur votre opinion sur le problème. C'est-à-dire que ça fait que même quand on est en cabinet, qu'on travaille, que quelqu'un n'est pas là, il a l'obligation de suivre en ligne ce qu'on est en train de, ce qui est en train de se passer. C'est comme ça que nous travaillons. C'est ça la force du Bata Conseil. Les faiblesses sont nombreuses. Les faiblesses, nous les reconnaissons. C'est que nous appartenons à un corpus de métiers qui n'est toujours pas réglementé. C'est-à-dire que la réglementation nationale n'existe pas encore. Au niveau de la CEMAC, il y a un acte de la CEMAC qui a été pris en 87 qui définit le contour de l'espère en douane. Mais cet acte devait être complété par un corpus juridique national qui crée un ordre des espères qui veille donc sur l'éthique et la déontologie et sur notamment les responsabilités des uns et des autres vis-à-vis de la structure. Cet élément-là, sur une partie de ping-pong entre le ministère des Finances et la Direction générale des douanes, finalement, nous ne comprenons pas très bien pourquoi est-ce qu'on en est là. Parce que normalement, on devrait déjà avoir, depuis 1987, nous sommes pratiquement une trentaine d'experts déjà agréés. C'est une honte. Je le dis qu'on ne soit pas encore organisé en termes d'ordre et de comme les autres sont. Il y a les experts fiscaux, les médecins, les avocats, comme vous le dites si bien. Et nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas ça. Ça fait problème. Ça fait problème dans la mesure où chacun évolue dans son coin. Et comme je dis, cette partie du ping-pong-là nous désole tous. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a un refus d'organiser cette profession par ceux qui ont le devoir de le faire. Pour quelles raisons la question se pose toujours.
Et selon vous, que faut-il faire immédiatement?
Non, il faut absolument que les choses évoluent. Ce n'est pas les propositions qui ont manqué. C'est-à-dire qu'il y a un projet de loi qui doit être la création des ordres. Tout ça, c'est le domaine de la loi. Il y a un projet de loi qui a été fait depuis des années, qui a fait des comptes de ping-pong, et même pas à la grande vitesse du ping-pong. Quoi. Puis c'est parfois pour traverser la balle, on a l'impression qu'on la procès, pour qu'elle prenne son temps pour traverser le filet. Et nous sommes exactement dans une situation où nous osons espérer que cette fois-ci, on aura enfin ce projet de loi-là sur la table du président de l'Assemblée, du président du Sénat.
Monsieur Tchapa, dites-nous, qu'est-ce qui fait la particularité de Bata Conseil?
Oui, disons que la particularité de Bata Conseil, c'est que nous avons une équipe. Parce que contrairement aux autres cabinets qui sont faits, des promoteurs du cabinet, nous avons une équipe. Comme je l'ai dit, nous sommes cinq pratiquement là. Et ça, c'est comme experts principaux. Nous avons également une équipe d'experts juniors que nous mobilisons à chaque fois qu'il y a des dossiers spécifiques à travailler. Donc, la particularité de Bata Conseil Direct, c'est que nous travaillons en équipe. C'est l'esprit d'équipe.
Et depuis la création de cette entreprise, quelles sont vos plus grandes actions?
Disons que Bata Conseil, à proprement parler, a eu à traiter des dossiers importants. Nous avons eu à assister une société comme c'est pas de publicité, c'est comme Simencam qui avait des problèmes et à la grande satisfaction du client. Nous avons eu également assisté à un sonnet à l'époque qui est devenu aîné aujourd'hui, qui a un contentieux qui le posait à la douane, à la grande satisfaction de la sonnelle avec qui on a gardé des relations de partenariat. Nous avons également eu un gros dossier avec la société Orange Cameroun sur le contrôle, sur toujours un contrôle douanier, puis tout ce dossier part toujours des contrôles douaniers, parce que l'inconvénient que nous avons, c'est que dans le métier, c'est qu'on vient toujours en pompier. Or, nous n'avons pas appris ce métier-là. On n'a pas appris le métier de pompier. Le pompier a des habits unifiges pour le protéger, que nous n'avons pas. Puisque quand on dit au feu, feu, on est obligé de courir. On est obligé de courir et je dois dire que l'autre, la difficulté qu'on a dans la profession se trouve parfois au niveau du recouvrement. Autant une entreprise est prompte à appeler le pompier, autant elle traîne les pieds quand il faut payer. Nous avons dans notre portefeuille beaucoup d'entreprises. On a le groupe Batula, on a Perenco, on a également on avait Sicalia. C'est des interventions pour quelques-unes de ces entreprises qui sont ponctuelles quand il y a un problème. Mais ce que nous rencontrons comme difficulté la plus grande, c'est que, comme je l'ai dit, on nous appelle toujours quand la maison a déjà brûlé. Il faut sauver les meubles. Alors qu'il y a tout un dispositif qui existe en amont, qui s'ils avaient été mobilisés, on aurait moins de problèmes. Nous avons dit aux entreprises que nous préférons gérer la prévention. C'est pour ça que nous mettons à l'expérience de toutes nos entreprises tout le corpus juridique qui gère leur activité. en leur disant attention à telle période que vous devez faire, attention à telle procédure, attention à telle procédure, attention aux mots que vous écrivez, parce que chaque mot sur un procès verbal a un sens particulier et le mot absent est absent et a les conséquences de quelque chose qu'on n'a pas mis.
2015, Monsieur Tchapa, nous y sommes. Comment entrevoyez-vous l'avenir?
L'avenir dépend de l'aboutissement, comme j'ai dit tantôt, de ce fameux texte que nous attendons pour organiser la profession. C'est le point central, c'est le point de départ. Tant que ce texte n'est pas pris, tant que la profession n'est pas organisée, je vais dire qu'on fait du replâtrage, du rafistolage. Ce n'est pas scientifique, ce n'est pas technique. Et ce n'est pas dans nos habitudes de travail dans ce système-là. Il faut absolument que les choses soient organisées de manière que chacun sache quels sont ses droits, quelles sont ses responsabilités. C'est valable pour nous, c'est valable pour les entreprises que nous encadrons.
En tant qu'ancien, M. Tchapa, que dire aux jeunes qui débutent leur carrière dans la douane?
Je dois leur dire d'être patient, d'être humble. C'est les deux principales recommandations que je leur ferai. Humble, ça c'est patient, c'est quoi? C'est que tout vient en son temps à celui qui sait attendre. On l'a appris dans la littérature française. Et humble, ça attaque tout un pan. C'est-à-dire qu'il faut s'entourer des conseils. Quand on a un dossier, ce n'est pas une honte que de se rapprocher d'un aîné ou même d'un cadet pour dire qu'est-ce que tu penses de telle situation. Ce caractère humble qu'on recommande demande qu'ils se forment d'abord eux-mêmes avant d'aller en entreprise. Je vous raconte une histoire. Hier à midi, à pareille heure, je suis allé voir des aînés qui sont installés dans la fonction commissionnaire à Guéant-Douane. Habituellement, j'ouvre la porte, je dis bonjour. J'ouvre la porte, je me rends compte qu'ils sont avec des gens, trois fonctionnaires, et je me rends compte que c'est en contrôle. Ce n'est pas le moment pour rendre visite à un aîné. Je dis bonjour, je me rends compte que c'est un contrôle douanier, contrôle de profession. Et immédiatement, je suis une question que pose un des contrôleurs. Quand j'ai fini ma mission, je reviens là et dis, mais attendez là, comment est-ce qu'on peut venir en contrôle vous poser une question comme celle que j'ai entendue là tout à l'heure? Parce que c'est à moi qu'on posait et que c'est moi qui étais derrière la table, j'allais demander aux fonctionnaires d'aller se faire former d'abord avant de revenir me poser une question pareille. On a eu des cas pour lesquels on se retrouvait en entreprise. Où je m'en vais défendre, nous allons défendre un client d'entreprise. Et l'équipe de contrôle arrive, il m'est arrivé d'avoir l'outrecuidance, de demander une pause, de suivre les responsables de l'entreprise de sortir, pour que je parle à mes jeunes collègues en disant, attendez, ne nous ridiculisez pas. Avant d'aller en contrôle dans une entreprise, ou bien avant d'aller d'attaquer un domaine professionnel, vous devez vous entourer de toute la réglementation, toute la législation, et même de toute la jurisprudence qu'il y aurait eu. Je ne dis pas que vous devez être un savant totalement, mais au moins vous devez poser des questions pointues qui font que la personne devant qui vous trouvez, votre partenaire, sait que vous savez ce que vous cherchez, c'est-à-dire c'est que vous connaissez au moins la matière. Pas que vous partiez de son bureau en laissant l'expression de quelqu'un qui est venu plutôt l'importuner ou demander autre chose que ce pourquoi vous êtes venu, tout simplement parce qu'il se rend compte qu'il n'y a pas de débat. Quand nous avons commencé dans ce métier, il y avait la notion de ce qu'on appelle la salle de visite, c'est-à-dire que tous les jeunes qui étaient infectés visitaient la même salle. On était entouré par des vieux qui étaient au fond de la salle. Exactement dans ça de classe. Et quand vous aviez un dossier, le débat existait. C'est-à-dire que quand vous écriviez sur une déclaration, me voir ou m'en parler, ça signifiait que vous aviez potassé la déclaration, que vous étiez entouré de l'expérience de vos aînés qui étaient en fond de salle pour ne pas vous ridiculiser devant la personne que vous allez convoquer. Signer une déclaration avant de dire me voir dessus, il fallait que vous ayez passé la nuit à potasser la réglementation et tout. Or là maintenant, le débat technique n'existe plus. Le débat technique n'existe plus. Il est bien vrai que les jeunes ont pour leur défense que beaucoup de marchandises sont mercurialisées, sont soumises à valeur de référence. Donc le débat s'est déplacé et malheureusement pour la profession, ça n'a pas aidé les jeunes collègues à se professionnaliser dans leur métier. C'est vraiment un drame, il faudrait qu'on y pense, il faudrait qu'on y pense. Et bien vrai que de plus en plus, il y a des actions de formation et tout ça. Parce que même au niveau de l'école, ça au moins c'est déjà un grand acquis pour la direction générale de douane. C'est-à-dire qu'on a fait plus quelqu'un sans qu'ils aient eu au moins les rudiments de la douane. Parce qu'il arrive un moment où on te recrute aujourd'hui, le lendemain tu as un sifflet. Tu ne sais pas ce que tu vas siffler.
À découvert.
Il y a eu des incidents majeurs parce que la personne ne savait même pas elle-même ce qu'elle allait sur le terrain pour chercher, sans compter que les incidents qui créaient devaient être résolus par le service, puisqu'ils étaient agents publics et agissant dans le cadre de ces fonctions. Cette période-là est révolue, mais il faudrait que ce genre de formation se multiplie pour que, comme disait Gaston Bachelard, l'esprit scientifique se forme en se reformant. C'est-à-dire qu'on vit des recyclages, pas, mais l'administration n'en a pas tous les moyens de sa politique. Dieu merci, elle est appuyée actuellement par l'Union européenne dans le cadre du PAMOD pour les fausses actions de formation. Et ça mort.
Nous allons sortir de Bata Conseil. Monsieur le directeur, vous permettez que je vous appelle comme ça. Vous êtes le président du comité de développement Bata.
Mon village et son développement. Le comité villageois de développement de Bata, c'est une association qui regroupe au premier lieu les fils et filles de Bata, mais pas seulement les fils et filles, tous les aficionados dont on peut parler. J'ai parlé de mon associé qui a été épaté par ce qu'on a fait au village. Donc c'est une association qui vise à pratiquement à remettre le village Bata sur pied. Parce que de tous les villages du groupement Babouantou, et même de, je crois, du Honkam, nous avons celui qui a le plus souffert de la campagne de pacification menée par l'armée française avant et après l'indépendance du Cameroun. Étant excentré, le village a été totalement détruit, les populations déportées. Et je l'ai dit, on avait en 1921 déjà une école primaire avec internat qui allait au commentaire d'eux à l'époque. Et c'est tout ça, on avait un temple, c'est pas chez nous que le... C'est notre village que Dieu a choisi pour faire connaître la région chrétienne au groupement Babouantou, au groupement environnant. Et c'est par nous également que l'école de Jules Ferry est arrivée à ce niveau-là. Cette association regroupe tous ces cadres qui se réunissent une fois par mois au village en assemblée générale pour faire les évaluations. Et tous les ans, on a un congrès annuel qui regroupe tous les fils et filles du village pendant lesquels on définit les objectifs. Cette association est une association reconnue par la loi de 92 sur les associations. Donc on a toutes les autorisations et tout. Et cette association a pour ambition de recréer au village les conditions d'une vie pas semblable à celle qui est en ville. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord refaire. Parce que quand on l'a fait, les populations étaient déportées dans les années 58. Au centre du village où la ville est née. Et ils y sont restés en considérant le Bata comme étant une zone de champ. Nous sommes partis à leur rencontre parce qu'il a fallu les rencontrer pour faire ce qu'on appelle l'agenda 21, c'est-à-dire notre programme pour le 21e siècle. Ce programme a été fait et nous avons trouvé sur le net des fiches pour récupérer les besoins des populations. C'est comme ça qu'on a établi les besoins des populations. Quelques besoins que les populations posaient, avaient pour remonter. Puisque nous sommes à 1500, mais les autres sont à 1300. Il faut remonter. Dans ce niveau, les populations ont défini leurs besoins, ménage par ménage. Nous avons stratifié. Et le premier besoin, c'était une école. Ils avaient besoin d'une école qui a été inaugurée, qui est devenue école publique en 2005. Ils ont dit également qu'ils avaient besoin d'eau courante. Nous avons la chance d'être en montagne et d'avoir des sources qui sont plus en amont que nous, à 1900 mètres. Donc nous avons actuellement un réseau d'adduction d'eau qui a une soixantaine de bonnes fontaines qui ravitaillent six autres villages en dehors du nôtre. Parce que nous avons le sens du partage également. Et ceux-là n'ont pas la chance que nous avons. Donc il faudrait que nous partagions avec eux le bonheur que le bon Dieu nous a donné. Et le troisième problème, c'était qu'ils ont dit qu'il faut un centre de santé. Nous avons commencé toujours en 2005 la construction de centres de santé dont les travaux sont malheureusement arrêtés actuellement parce que les membres de mon comité sont un peu fatigués. Parce que les moyens qu'on a déployés au départ pour construire l'école, on a construit l'école, et l'école est payée 32 millions de francs avec l'appui des amis et tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que beaucoup se sont rendus compte que les moyens qui étaient mobilisés allaient à l'entretien de l'école. C'est-à-dire qu'il fallait payer les maîtres, les enseignants, il fallait acheter le matériel scolaire. Dieu merci, on a des amis à Messa Presse qui nous ont donné des livres et tout ça, des livres gratuits pour l'école et qui nous aident à... Il y avait aussi ces forts équipements qui nous ont aidé à organiser des discussions de prix, qui nous ont aidé à organiser des discussions depuis tous les ans. Il y a Mongasso, je dis, qui fabrique les cahiers, qui nous donne également des cahiers. Et il y a Batula qui nous donne des équipements également. Et le groupe Batula vient de donner 502 livres à la bibliothèque de notre école. Ça fait que nous avons une bibliothèque de près de 2200 livres. Mais le véritable problème, c'est que nous n'avons toujours pas d'électricité. C'était le quatrième problème que les populations avaient soulevé. Nous avons donc dû, depuis décembre de l'année 2013, mobiliser des moyens pour au moins avoir l'électricité sur place. Nous avons mobilisé ces moyens et l'électricité au moins arrive au centre du village. Notre priorité était que ça arrive à l'école et au niveau du centre de santé. Malheureusement, nous avons encore des petits problèmes avec Eneo pour le raccordement. Ça fait que le centre informatique, c'est-à-dire la salle multimédia, de l'école n'est pas fonctionnel. Puis ces appareils sont chez moi où je n'ai pas d'électricité. Il faut les déplacer. Nous avons fait tous les aménagements à l'école. On a aménagé un coin de bibliothèque où les livres doivent être déplacés. On a aménagé un coin également pour les ordinateurs. Malheureusement, tout ça ne peut pas être fonctionnel parce qu'il manque l'essentiel d'électricité. Je suis abonné à Cameroun Tribune, on est abonné au journal officiel. C'est des lectures qui serait utile pour nos enfants, puisque de plus en plus, il faut que les enfants apprennent à lire. Comme j'ai dit, on a 2200 ouvrages. On a eu la chance d'avoir un don de l'école française ici, et c'est même l'inspecteur pédagogique de l'école française qui est venu avec son épouse, il s'appelait M. Matré, à l'époque il était encore au Cameroun, avant les coupes budgétaires en France. Puisqu'on a même eu à recevoir des instituteurs français de l'Académie de Lyon, dans l'école du village, 4 instituteurs français qui ont séjourné pendant un mois dans leur stage académique en janvier-février 2010, là-bas à Tapoué. Et le problème, c'est que tous ces livres-là ne sont pas usités parce qu'il n'y a pas d'endroit, pour les poser. On a trouvé l'endroit, il manque l'électricité pour que les enfants puissent rester ou bien venir le week-end et exploiter ces livres-là. Or, nous savons que le véritable problème de l'école primaire, c'est la lecture. Il faut que les enfants apprennent à lire.
À découvert.
Quand maintenant qu'on a des problèmes plus graves avec les SMS et les je sais pas quoi. Moi, j'ai dit à mes enfants de m'écrire un SMS avec des phrases complètes parce que quand on écrit soir avec SOE, soirée, SW, je ne me retrouve pas dans ce langage trop moderne là pour mon vieil âge. Donc, c'est au niveau du comité de développement, c'est ce que nous faisons. Et nous avons d'autres, nous avons beaucoup de projets. On a un projet de créer une coopérative au centre du village, c'est-à-dire un endroit où les populations venaient déposer leur production haricots, pommes de terre, arachides, maïs, et ils déposeraient là-bas. Et un carnet serait, un gérant serait ouvert, et puis nous de la ville, on apporterait à la demande un sac de riz, du sel, de l'huile, de manière à ce qu'il y ait une sorte de compensation, c'est-à-dire qu'on fonctionne en compte et le sac de riz que nous amenons, on l'achète ici au prix de Douala et il nous rembourse au village le prix de Douala. C'est-à-dire pour que le prix au village soit le même que ceux en ville et qu'il y ait une attraction pour la population de rester sur place. Nous avons également un projet d'améliorer notre foyer culturel, mais actuellement en équipement et tout. Et surtout, on a un processus d'entretien des routes qui vont chez nous. On est en montagne et quand il pleut, les pluies sont dévastatrices. On emploie la population à chaque fois à nettoyer les routes, à faire nettoyer les caniveaux pour que l'eau aille là où elle doit aller, ne détruise pas la chaussée. Donc, c'est autant de projets qu'on a. Et comme je dis, on a plus de projets que de moyens. La conséquence, c'est que l'expérience de l'école nous pousse à ne pas donner le centre de santé si jamais nous pouvons l'achever, on ne va plus donner à l'État. On ne peut plus. Parce que ce sera encore dans une nouvelle prison. Et je ne sais pas si on se sortira de cette deuxième prison. Parce que là, on a des amis qui sont médecins, on a des frères qui sont médecins. Ce que nous voulons, c'est organiser pour des amis qu'on a, qui sont à l'étranger, tout ça, leurs amis à eux, et qu'on leur organise des vacances en Afrique. Quoi. Ils viennent là pour deux semaines, un mois. Ils habitent le village et puis ils interviennent dans le centre de santé, ça a leur contribution, parce que pour ce centre de santé, nous nous battons pour... Nous avons pratiquement les appareils, on veut faire de la radio, un cabinet dentaire, un bloc chirurgical, tout ça. On a presque tous ces appareils-là et on a besoin de moyens pour les,
réhabilité.
Pour les transporter, puis il faut d'abord les transporter, les amener ici. Mm-hmm. Et à obtenir une exonération de droits et taxes, puisque tout ce matériel n'est pas exonéré par le tarif des douanes. Et notre association n'est pas encore reconnue comme d'utilité publique. Je ne sais pas si on y arrivera un jour.
Nous allons bientôt sortir de cet entretien. Nous voulons vous donner l'occasion sur la radio ce soir de vous adresser aux populations de Batak. Que leur dites-vous?
Je leur dis que nous venons d'installer un chef, un jeune chef, un chef travailleur, un chef volontaire. Ce jeune homme que nous avons installé à la chefferie, qui est notre nouveau père, bien qu'il soit notre fils, doit être soutenu. Il doit être soutenu. Parce que si nous le laissons seul et qu'il s'égare, c'est nous qui aurons perdu. Nous avons déjà trop souffert du schisme qu'il y a eu pendant presque 30 années entre le peuple et son chef. Et il est hors de question que cette situation-là se renouvelle. Nous disons également au Batak, nous avons besoin de tous pour les actions que nous avons à faire. J'ai dit dans mon discours, quand on intronisait le chef, que nous avons découvert des touristes Batak, originaires de Batak. Il faut qu'ils cessent d'être touristes et qu'ils s'impliquent dans le développement de leur contrée. Parce que l'ennui qu'il y a, c'est qu'une cérémonie comme celle que nous avons eue le 22 février dernier, le village était plein à craquer. Mais après ça, chacun s'en va. Chacun s'en va et ils partent comme ça en emportant même les régimes de bananes et tout ça. Quoi. C'est-à-dire que nous-mêmes qui restons, on ne peut plus manger parce que l'enfant de la ville est venu. Avec un morceau de pain, il rentre avec toute la bananerie du village. Donc c'est des situations qui font que c'est un peu révoltant d'avoir des gens qui se vantent de ce que le village soit en train de se développer, de se moderniser, et qu'on ne les retrouve pas dans les tables de contribution. Parce que c'est l'effort de tous. Il faut qu'ils prennent l'exemple sur leurs mamans qui sont au village. Parce que dans tout le groupement Babantou, nous sommes les seuls à avoir réussi à mobiliser la population locale qui participe chaque mois. Les femmes partent chaque mois pour à hauteur de 500 francs. C'est-à-dire, c'est le bruit avant leur banane qui les arrachent. Elles doivent m'apporter ces 500 francs par mois. Ça fait 6 000 francs par an. Ça fait un sac de ciment, madame. Ça fait un sac de ciment. On a besoin de ce sac de ciment-là. Les hommes, c'est à 700 000. Pour ceux qui sont originaires de la localité, ceux qui sont de l'extérieur, le minimum, c'est 5 000 francs par mois. Donc, 60 000 francs par an. C'est comme ça, c'est en mettant bout à bout, petit à petit, comme ça qu'on réussira à faire de Batak la cité qu'elle a été, c'est le quartier latin de Babantou, et puis la santé aussi est née chez nous, puisque cette école-là avait un petit centre de santé pour soigner les enfants qui étaient à l'internat.
Monsieur Tchapa, merci et à très bientôt.
Merci madame, je vous remercie d'avoir donné l'occasion de surtout de parler de mon village.
À découvert.